Vous écoutez France Culture.
Tara, c'est à vous. Bonsoir.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. François Hollande est à La Réunion et annonce des mesures pour la filière sucrière. Notamment, nous verrons cela avec Laurent Vatrin. Les altermondialistes tiennent leurs journées européennes. C'est à Paris, reportage de Marie Viennot et puis à l'étranger. Nous irons en Irak, à Dohuk, après la mort filmée de James Foley. Il faut rappeler combien les djihadistes ont l'habitude d'user du kidnapping et du meurtre pour semer la terreur. Ce sera un reportage d'Éric Biegala. 18h15, du grain à moudre d'été avec vous, Julie Gacon.
Oui, fallait-il vendre le Mistral à la Russie? La France est censée livrer 2 porte-hélicoptères à Moscou d'ici la fin de l'année. Depuis la signature du contrat en 2011, l'annexion de la Crimée a changé la donne, lui rappellent les États-Unis et l'Allemagne notamment, qui enjoignent la France d'annuler la vente. Nous en débattrons avec nos 3 invités.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Scotland Yard tente de mettre un visage sur le combattant islamiste qui a tranché la gorge du journaliste américain James Foley. L'homme est cagoulé, mais son accent britannique a frappé les esprits et Londres pense qu'il s'agit bien d'un de ses ressortissants. Le MI6 dispose d'un fichier de 500 à 600 noms de Britanniques qui combattraient ou qui ont combattu dans les rangs djihadistes en Syrie et en Irak ces derniers temps. L'opinion occidentale est particulièrement choquée en ce moment par l'assassinat du reporter américain, mais il faut rappeler que ces actes particulièrement atroces sont une constante de l'État islamique. Sur le terrain, les combattants pratiquent allègrement le kidnapping et les demandes de rançon, quand ce n'est pas directement le meurtre. Ils s'attaquent aux populations locales, comme aux minorités à Dohuk, en Irak. Le reportage d'Éric Biegala.
Les Yézidis d'Irak, minorité religieuse kurde, aujourd'hui réfugiés en grande partie à Dohuk, ils y seraient près de 200 000, ont été les victimes de meurtres, de viols, voire de véritables massacres commis par les djihadistes. Les habitants de certains villages de la région du Sinjar auraient été tous passés par les armes au début du mois. C'est ce que les réfugiés, ici à Dohuk, racontent aux travailleurs humanitaires d'Action contre la faim. Eric Bess est le coordinateur de l'ONG sur le terrain.
Ce qui est sûr, c'est que nos équipes, et notamment nous avons des activités autour du psychosocial, et ces équipes-là nous remontent de manière assez régulière en discutant au quotidien avec les différentes familles de Yazidis notamment, et particulièrement cette population-là, d'un certain nombre d'atrocités. Le trauma est très important. Tout prête à croire que tout ce que ces familles racontent s'est effectivement passé.
Tous les yézidis qui tombent aux mains des djihadistes ne sont pas forcément exécutés. Le père de Mardan Mechao a été fait prisonnier par l'État islamique il y a 15 jours.
Je sais que mon père était toujours vivant il y a 3 jours. Il a appelé un de mes cousins pour dire qu'il était vivant et otage de l'État islamique.
Otage, cela veut dire concrètement que sa vie peut être rachetée. 4 membres de la famille d'Amin Khedir Hadji, sa mère Gauri, son oncle et 2 de ses cousines, ainsi qu'une nièce, sont également prisonniers des djihadistes à Sinjar.
Mes cousines ont réussi à appeler la famille pour dire que si on payait, elles seraient libérées. Mais je n'ai pas d'argent. Elles nous ont dit aussi que si on ne rachetait pas leur vie et leur liberté, l'État islamique les vendrait au marché.
Près de 2000 femmes et jeunes filles yézidis seraient actuellement détenues par les groupes djihadistes de l'État islamique.
Éric Biegala en Irak avec François Rivalan. Le Qatar a officiellement condamné aujourd'hui le meurtre du journaliste indépendant James Foley. Crime ignoble, contraire aux principes de l'islam, dit Doha. Du côté américain, la Maison-Blanche persiste dans ses frappes aériennes. 80 raids au moins menés par des avions US en 12 jours. Et le Pentagone envisage d'envoyer 300 soldats supplémentaires. Cela dit, il est toujours hors de question pour Barack Obama de déployer des troupes au sol en Irak, ce qui réveillerait les blessures de l'opération engagé par George Bush contre Saddam Hussein. Quitter Bagdad, rapatrier les GIs hors d'Irak, ce fut l'une des priorités d'Obama. Mais voilà, le président des États-Unis entraîné presque malgré lui dans une nouvelle traque sur le terrain irakien, ce qui n'est pas forcément facile à défendre face à son opinion publique. L'historien André Caspi analyse cette séquence plutôt problématique pour Barack Obama.
Incontestablement, Barack Obama est affaibli. Il n'a pas de stratégie globale à l'égard de l'Irak et de la Syrie. On se rappelle que l'année dernière, il a refusé d'intervenir en Syrie et aujourd'hui, il en paye le prix parce que l'affaiblissement des États-Unis dans cette partie du monde contribue à renforcer d'une certaine manière l'État islamique. Et le résultat de tout cela, c'est une stratégie plutôt tiède qui ne convainc pas et qui contribue à renforcer encore les difficultés dans lesquelles il se trouve.
Au milieu de ces difficultés, comment se comporte l'opposition, les conservateurs ?
L'opposition, elle est double. Il y a d'un côté l'opposition démocrate, qui considèrent que Barack Obama mène à l'égard du Proche-Orient une politique dangereuse qui risquerait d'impliquer davantage les États-Unis. Et puis, il y a l'opposition républicaine. Mais quand on dit l'opposition républicaine, il faut surtout penser à l'opposition du Tea Party, c'est-à-dire de cet extrémisme droitier du Parti républicain, qui n'hésite pas à attaquer Barack Obama sur tous les plans, et en particulier sur sa politique étrangère et sur sa politique intérieure, en considérant que il n'est pas véritablement celui qui saurait mener les États-Unis au milieu de toutes ces difficultés.
Voilà, donc l'historien André Caspi avec Frédéric Seyss. Il faut rappeler que les élections de mi-mandat pour Barack Obama vont se dérouler en novembre. Et puis le ministre américain de la Défense, Chuck Hagel, et le chef d'état-major interarmé donneront une conférence de presse ce soir vers 21h30. En Ukraine, on annonçait qu'une partie du convoi russe contenant de l'aide humanitaire avait franchi la frontière en direction des fiefs de Donetsk et de Luhansk. En réalité, il semble que les camions soient encore bloqués entre les deux zones douanières, ukrainiennes et russes. Kiev voit d'un œil très inquiet pénétrer sur son territoire ces cargaisons destinées aux pro-russes. Parallèlement, l'armée ukrainienne poursuit le siège des deux places fortes insurgées, Donetsk et Luhansk donc. Et l'armée de Kiev affirme avoir saisi deux blindés russes au cours des combats. Combats particulièrement violents ces dernières heures. L'ONU estime que plus de 400 000 civils ukrainiens fuient la guerre ces jours-ci. En bref, encore le Hamas qui enterre ses militants dans la bande de Gaza. Trois hauts responsables ont été éliminés par Israël aujourd'hui. Et puis à Doha, au Qatar, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a vu le leader en exil du Hamas, Khaled Meshaal, une rencontre d'au moins 3 heures, dont pour l'instant rien n'a filtré. Et puis en Centrafrique, 3 soldats français ont été blessés dans des accrochages dans un quartier de Bangui, la capitale. Pendant plusieurs heures, les militaires ont fait face à des hommes armés, sans plus de précision pour l'instant. Et puis une manifestation pacifique cette fois s'est déroulée tout à l'heure dans la capitale centrafricaine. La foule accusant les soldats français de la force Sangaris et les soldats de l'EUFOR de harcèlement contre les musulmans. François Hollande n'arrive pas les mains entièrement vides à la Réunion, territoire d'outre-mer qui lui était acquis en 2012, mais depuis, il illustre bien la désillusion des électeurs de gauche. Le président de la République, à peine arrivé, a annoncé une série de mesures pour lutter contre le chômage. Sur place, ce fléau frappe 60% des jeunes dans l'île et près d'un tiers de la population. Le chef de l'État a notamment annoncé un renforcement du pacte de responsabilité pour l'outre-mer, où le CICE, le crédit d'impôt offert aux entreprises, sera encore plus généreux qu'en métropole. Et puis François Hollande s'est penché sur la filière de la canne à sucre. Bonsoir Laurent Vatrin.
Bonsoir Tara.
C'est une industrie cruciale pour l'île de la Réunion.
Avec 10 000 emplois directs sur l'île, la filière canne à sucre est en effet un socle de l'économie réunionnaise. Vincent Defaux est chargé de mission au Conseil régional de la Réunion et il travaille dans la formation professionnelle agricole sur l'île.
La canne joue un rôle aussi bien économique que d'aménagement et de porteur global pour l'ensemble des filières agricoles de la Réunion. Autour de cette culture s'est développée la diversification agricole, les filières maraîchage, fruits, légumes, élevage très bien placé. On est quasiment dans l'autoconsommation en termes de fruits et légumes. Et dans le domaine de la viande et la transformation de la viande, on est quand même à des niveaux d'excellence européens. Si la filière canne s'effondre, c'est tout l'ensemble des autres secteurs agricoles et c'est tout l'aménagement de la Réunion qui va se poser, et pas seulement en termes que économiques pour 10 000 personnes. Après, la question, c'est de savoir, est-ce que l'Europe et la France ont les moyens aujourd'hui de ce type de soutien ?
La politique agricole commune de l'Union européenne garantit aujourd'hui un prix pour une production annuelle jusqu'à 300 000 tonnes. Ce soutien s'arrête dans 2 ans, sous la pression de l'Organisation mondiale du commerce. Le sucre réunionnais, le sucre bourbon, comme on dit, sera donc livré à la concurrence. François Hollande déclare aujourd'hui vouloir négocier une convention particulière pour pérenniser la filière, mais le chef de l'État a aussi livrer un autre type de message.
Votre responsabilité, c'est de croire en vous-même, c'est de vous battre. On ne peut pas tout attendre de l'État, de l'Europe. Et on imagine, on invente et en même temps, on reste fidèle à son cap. On garde la cohérence de ce que nous faisons.
Et pour l'innovation, le chef de l'État annonce un niveau d'intervention plus élevé du crédit impôt recherche et du crédit d'impôt compétitivité emploi pour soutenir les projets réunionnais. Beaucoup d'acteurs économiques sur l'île misent effectivement sur l'innovation et la recherche, notamment dans la croissance verte. Et là, la canne à sucre fait aussi partie du programme.
Laurent Vatrin, merci. Et puis François Hollande s'envolera demain pour Mayotte avant de faire étape aux Comores. On vient d'en voir l'illustration dans les DOM. L'exécutif cherche à tout prix à relancer la croissance en France, à tout faire pour enrayer la stagnation du PIB qui s'est enlisée au premier et au deuxième trimestre de cette année. Tout le monde, cela dit, ne partage pas cette quête de voir la consommation croître indéfiniment. Ainsi, les altermondialistes qui critiquent ce modèle depuis des années. À Paris, depuis deux jours, se tiennent les journées d'été européennes des mouvements sociaux organisées par ATTAC. L'événement rassemble plus de 2000 personnes sur le site de l'université Paris 7. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir Tara.
Les participants planchent donc sur différents thèmes. Financiarisation du monde, illégitimité de la dette, Europe forteresse, lutte contre le changement climatique. Mais ils ont aussi le souci, et de plus en plus, de traduire concrètement ces réflexions, Marie.
Oui, l'autre monde n'est pas seulement possible, il existe déjà. C'est en effet la tonalité de très nombreux séminaires et ateliers organisés lors de ces rencontres autour de ce qu'on appelle les ALC, les actions locales concrètes. Jean-Michel Coulon d'ATTAC animait l'un de ces séminaires.
On peut récupérer l'eau, on peut faire de l'agriculture solidaire, on peut faire de l'économie solidaire, construire des coopératives. Au niveau de l'habitat, faire de l'éco-habitat, faire de l'habitat participatif, de l'habitat partagé. On peut monter des ateliers de réparation qui évitent de jeter et de racheter sans arrêt et de surconsommer, etc. Enfin, sur tout ce qui touche à la vie, on peut tout à fait, et finalement pas très difficilement, se regrouper.
Alors changer de banque pour une banque éthique, créer une monnaie locale, se regrouper pour ses achats, adhérer à une AMAP pour acheter ses légumes. Depuis 10 ans, ces pratiques se développent, s'enracinent et s'étendent à de nouveaux domaines, notamment l'énergie. Christelle Sauvage préside l'association Énergie Partagée.
On est tous d'accord qu'il faut développer les énergies renouvelables, mais elles se développent sur la base de modèles économiques et industriels conventionnels, c'est-à-dire ce sont des grandes entreprises qui viennent, qui investissent, et les bénéfices des parcs éoliens quittent les territoires. Les biens communs qui sont à la source des énergies renouvelables, comme le soleil, le vent, l'eau, appartiennent à tous. Et notre idée, c'est de dire que l'exploitation de ces richesses doivent bénéficier aux acteurs des territoires, dans les territoires. Et pour ça, il faut qu'on s'occupe des sociétés d'exploitation, mais c'est très capitalistique. Parc éolien, on parle en millions d'euros, hein, donc il faut des moyens. Alors quand on est tout seul dans son petit coin et qu'il y a juste la volonté et les moyens financiers de quelques citoyens ou même de dizaines et centaines, on ne peut pas forcément arriver à boucler un projet lourd. Et donc le fonds d'investissement énergie partagée arrive en appui des projets locaux.
Alors des dizaines de projets d'énergie partagée sont en cours. Le plus avancé est à Bégane, en Bretagne Sud, où 4 éoliennes fonctionnent depuis cet été, terme de 10 ans de démarche portée par 1000 citoyens. Alors de la critique à la pratique, c'est le pas qu'espèrent avoir franchi les altermondialistes des débuts. Pour autant, aucun n'imagine que ces initiatives seules sauveront le monde. Ils appellent toujours à une réorientation profonde du système et ne comptent que sur eux-mêmes et les circonstances pour réaliser ce qu'ils nomment maintenant, Tara, une bifurcation.
Merci Marie Viennot. Et puis à noter que dans un registre plus politique, si on peut dire, les Verts tiennent leur université d'été à Bordeaux depuis ce matin. Il y a notamment beaucoup question du livre « Règlement de compte » que publie l'ancienne ministre du Logement Cécile Duflot, un brûlot où elle qualifie François Hollande de président de personne. Jean-Vincent Placé, chef de file des sénateurs écologistes, a déploré un jugement extrêmement sévère. Et puisqu'on parlait il y a un instant avec vous, Marie Viennot, de l'altermondialisation, cela nous ramène au temps d'Occupy Wall Street et de la crise financière, une crise qui vient de se rappeler au mauvais souvenir de Bank of America, le deuxième établissement financier des États-Unis, rattrapé par les crédits pourris qu'il a vendus à l'époque aux contribuables, vient d'accepter de payer une amende record. Pierre-Yves Dugain.
Bank of America paye près de 17 milliards de dollars pour éviter un procès au civil. Sa rivale, Citigroup, avait fait la même chose en juillet à hauteur de 7 milliards de dollars et la première banque des États-Unis, JP Morgan Chase, en novembre, avait fini par payer elle aussi, et pour les mêmes raisons, 13 milliards. Ces amendes sanctionnent la distribution, avant la crise de 2008, de centaines de milliards de dollars d'obligations à haut risque, adossées à des prêts immobiliers faits à des foyers surendettés. On reproche aux banques d'avoir délibérément caché la mauvaise qualité de ces prêts. Le plus surprenant est que le département de la justice ne disposait pas assez de preuves pour attaquer Bank of America ou ses consoeurs au pénal, pour violation de la loi. L'autre ironie est que Bank of America paye essentiellement pour les malversations commises par d'autres, des responsables de banques qu'elle a rachetées dans l'urgence en 2008. 96% des obligations pourries couvertes par cette affaire provenaient des équipes de Countrywide Financial et Merrill Lynch, des institutions que le Trésor et la Fed avaient poussé Bank of America à racheter en 2008.
Pierre-Yves Dugas, un petit mot du temps qu'il va faire demain, de la pluie sur la Normandie et aussi sur le sud du pays avec de belles éclaircies promises dans l'après-midi et des températures toujours très fraîches. C'est la fin de cette édition préparée avec Nathalie Lopez. Prochain journal à 22h avec Anne Fauquemberg.